Bonjour à tous.
Bonjour.
Georges Birel.
Johan, Fabien.
Fabien Wellman.
Donc, une conférence pour essayer de parler d'un personnage qui fête cette année ses 75 ans. Donc, ce personnage de Spirou, créé en 1939 par Rob Vell. Et pour m'aider à vous en parler, qui en parleront beaucoup mieux que moi, je présente Johan, le dessinateur actuel du personnage, et Fabien Wellman, scénariste de Spirou, et puis aussi de Seul, et puis aussi Pré-Utopial, il y a quelques années, avec... comment dire, avec Gwen de Bonneval pour les derniers jours d'un immortel.
Et voilà. On va essayer de vous rendre tous épileptiques avec l'écran en très très peu de temps.
Ah oui, là ça va.
C'est les expériences pour que ce soit en relief, mais sans les lunettes.
Voilà. C'est le Spirou d'avant-garde.
Oui, voilà. C'est ça.
Le prochain, il est en gestation là.
Pour les Saturniens, ça marche à mort.
Donc Spirou, personnage créé en 39.
38.
38, pardon, ouais. 38 par les éditions Dupuis. Alors, par rapport à pas mal de choses, c'est pas un personnage qui a été créé par des. Comment dire, par des auteurs, c'est une demande d'éditeur, si je me souviens bien, la création du personnage de Spirou en 38.
En 1938, Jean Dupuis, en Belgique, à Marcinelles, est imprimeur. Il imprime des cartes de visite pour les pharmaciens et les médecins, et il a envie d'offrir à la jeunesse de l'époque une revue de bande dessinée qui véhicule certaines idées de positive, d'humanisme, mais aussi un petit peu chrétienne. Voilà. Donc, il a envie d'éduquer la jeunesse.
Et en réaction à des publications plutôt américaines à l'époque, à destination de la jeunesse, justement. Il trouvait ça un peu honteux que ça ne soit pas fait sur place.
Et il est étonnant de voir que ça n'a pas changé aujourd'hui.
Non, c'est vrai, on continue à courir derrière les Américains en vain.
on met des caps.
Donc, votre Spirou, il est fait pour éduquer la jeunesse, alors, finalement.
Mais bien entendu, bien il est édifiant au sens premier du terme.
Ouais.
Mais c'est vrai que dans l'esprit de Jean Dupuis, dont on peut quand même préciser qu'à l'époque, il avait déjà la soixantaine bien passée, je crois,
ouais.
C'était une nouvelle aventure dans laquelle il voulait se lancer. Et ce qui était assez intéressant avec ce bonhomme, c'est qu'en fait, même à cet âge-là, il avait envie de continuer des aventures d'entrepreneur. Et il a fait ça très très bien. Et effectivement, c'est venu d'une idée à lui. Et ensuite, il est allé chercher des auteurs.
Et il ne cherchait pas à concurrencer un autre personnage belge qui s'appelle Tintin à l'époque.
Tintin n'avait pas encore son magazine. Le journal de Tintin est né dans les années 50.
Ah ouais, donc ouais, c'était dans le petit 20e Tintin. Mais c'était quand même un personnage.
C'est un personnage qui prenait effectivement de la place. Mais je ne pense pas qu'il l'ait fait pour concurrencer à l'époque.
Non.
Je pense que la concurrence n'était pas possible. Tintin régnait en maître à l'époque. C'était le personnage principal. Ça allait rester d'ailleurs même par la suite quand Spirou est devenu populaire. Le seul endroit où il y a une forme de compétition entre les deux, c'était une sorte d'invention éditoriale entre le journal de Tintin et le journal de Spirou qui ont mimé une espèce de conflit entre eux de manière à amuser leurs lecteurs. Mais fondamentalement, si on parle de reconnaissance, Tintin est beaucoup plus populaire que Spirou. Par contre, Spirou a survécu et a continué à être repris par des auteurs, donc ce qui explique les 75 ans, 75 ans d'existence avec des nouveaux albums tout le temps.
Et le journal de Spirou existe toujours aussi.
Et le journal de Spirou qui existe toujours depuis 38, et je crois que c'est le seul exemple connu de la presse franco-belge.
Mickey, non ? Qui doit rester aussi, qui doit démarrer en tout.
Mais qui est d'origine américaine.
Qui est d'origine
à nouveau.
Américaine.
Voilà.
Yes, tu as raison. Voilà. Donc ce personnage est confié au départ à un dessinateur français qui s'appelle Robert Velter, qui signera Rob Vell. Donc ça va durer un an ou deux. Puis pendant la guerre, il y aura une interruption un peu du journal de Spirou. Je crois que c'est en 42 ou 43 que ça s'arrête. Et puis Spirou va connaître quand même une expansion juste après-guerre, quand Jigé le reprend. Et donc il va faire les premières aventures de Spirou qui vont paraître... Robert Velter, je pense pas qu'il soit paru en album avant-guerre, les aventures de Spirou. Hein.
Non, peut-être pas avant-guerre, non.
Non, c'est paru.
Et il faut reconnaître aussi que là, Dupuis vient de les éditer. Très honnêtement, c'est pas évident à relire parce que ça part vraiment dans tous les sens.
Ce qui est drôle de noter, c'est à quel point les Spirou dessinés par Rob Vell, ou en tout cas signés Rob Vell, puisqu'il n'est pas évident que ce soit lui qui les ait tous dessinés, à quel point ces histoires-là sont complètement halluciné, quoi. C'est complètement foufou. Spirou se retrouve dans des pyramides avec des pharaons géants, des trucs comme ça. Il voyage à travers le monde. Il arrive des trucs pas possibles. Il doit dépenser il doit aider un milliardaire à dépenser 5 milliards de francs à l'époque, de francs belges par jour.
Et quand je pense qu'on nous a dit que notre Spirou mutant sur la Lune du 52 était légèrement excessif, moi, j'ai envie de dire retournez aux sources, les amis.
Absolument.
D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait.
Donc,
aux sources du Z.
Donc, JG, c'est ça. Et puis après, il confie le personnage à quelqu'un, à un dessinateur important quand même, André Franquin, qui est quand même celui qui a donné toutes ces lettres de noblesse, qui a créé plein de personnages. Pour vous, tous les deux, je crois que c'est quand même une des inspirations principales dans votre vision du personnage de Spirou et des aventures de Spirou et Fantasio.
Disons qu'avant avant Franquin, Spirou vivait plutôt des péripéties que des véritables aventures. C'était des histoires courtes la plupart du temps, qui devaient prendre place au sein du journal même de Spirou, qui est un hebdomadaire. Donc toutes les semaines, que ce soit Robvel ou Jigé, devaient imaginer une suite aux petites histoires de Spirou qui démarraient. Il faut aussi préciser que Jigé, à l'époque, était dessinateur de plusieurs séries. C'était un peu le dessinateur à tout faire du journal de Spirou. Pendant la guerre, la plupart des autres étaient ou en prison ou invalides. Jigé, lui, continuait à dessiner. Après-guerre, très vite, il animait Bugdani aussi, je crois, Tanguy La Verdure, Jerry Spring, Blondin et Cirage. Au bout d'un moment, il en pouvait plus de toutes ces séries, et Spirou et Fantasio en plus. Il a décidé donc, ça devait être, je crois, dès 46 ou un truc comme ça, de confier Spirou à son élève qui était André Franquin, un jeune garçon qui rêvait de faire de la bande dessinée. Et Franquin va offrir à Spirou ses premières véritables grandes aventures.
Ouais, des récits vraiment construits sur 44 planches, et c'est Franquin qui fait les scénarios au départ.
Franquin écrit les scénarios.
Avec quand même une certaine marge d'improvisation, c'est-à-dire que c'est plus construit. Maintenant, il a fallu quand même quelques albums, je pense, pour que Franquin trouve ses marques, mmh. et que par la suite, qui plus est, il fasse appel à Greg pour encore plus étayer ses scénarios.
Mmh. Donc l'aventure Franquin va durer à peu près une trentaine d'années.
Jusqu'en 1969, date à laquelle il décide de laisser tomber Spirou ouais. Au profit de Jean-Claude Fournier.
Oui, qui va lui donner une autre tonalité. Puis le personnage va continuer à évoluer avec des dessinateurs comme Nick et Broca. Puis après, ça c'est pas peut-être la période la plus heureuse. Et puis après viendront les Tom et Jean-Ry qui vont donner quand même, quand ils vont prendre ce personnage, une espèce de souffle un peu différent quand même. Ils vont essayer de le moderniser un peu, de le faire évoluer.
Tom et Jean-Ry,
ouais.
Oh bah Tom et Jean-Ry qui ont quand même aussi compté pour des auteurs comme nous. C'est-à-dire qu'on a évoqué Franquin parce que pour la plupart des amateurs de Spirou, ça a été l'âge d'or. Maintenant, ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que moi, quand je lisais la revue, que j'étais pré-ado, c'était l'époque de Tom et Jean-Ry. Et à l'époque, c'était extrêmement novateur. De la même manière que tous les repreneurs de la série ont donné leurs pattes et qu'elle était très contemporaine au moment où la reprise était faite. Franquin faisait un Spirou des années 50-60, Fournier a fait un Spirou des années 70, je dirais que Tom et Jean étaient vraiment dans les années 80, c'est-à-dire l'époque sans doute des Indiana Jones et des choses comme ça, et c'était donc, on avait une impression d'un seul coup d'entrer dans une nouvelle ère de bande dessinée, et c'est sans doute pour ça aussi que la série a connu ses plus grands succès commerciaux à cette époque, en ayant à la fois le passif, dans le bon sens du terme, de l'âge d'or de Franquin, pour les aficionados, mais aussi cette espèce de patte complètement ébouriffante pour des gamins ou ados à cette époque. Ce que nous, on essaie de faire aussi, cette espèce de grand écart entre les gens qui ont aimé la série un peu par nostalgie maintenant, et puis ceux qui la découvrent maintenant. Tout le but, il est là, et c'est là que c'est compliqué. Il y a qu'à voir le quarantier d'enfants qui est parti quand on a commencé à parler. On ne peut que difficilement plaire aux deux. Et c'est ce qu'on essaie quand même de faire avec Johan, en essayant de faire des intrigues qui soient avec deux niveaux de lecture. Un qui puisse satisfaire un adulte, qui attend quelque chose d'un petit peu en rapport avec ce qu'il a aimé enfant, ou encore plus tôt que ça. Parce que moi, j'ai découvert les Spirou et Fantasio de Franquin qui n'étaient pas de mon époque, alors que j'étais enfant. Et puis, la nouvelle génération qui ne sait plus trop qui est le personnage de Spirou, si ce n'est des fois par le dessin animé qui passait à la télé, qui ne passe peut-être même plus actuellement.
Je ne sais pas.
Je ne pense pas non plus, ouais. Donc après Tom et Jean-Ry qui ont quand même marqué leur époque viennent Munuera et Morvan aussi qui vont faire je sais plus trop 4 albums de Spirou et puis vous qui arrivez un peu derrière quoi. Alors moi je voudrais savoir un peu comment vous avez découvert Spirou. Je veux dire ce personnage bon vous êtes toi t'es dessinateur auteur de BD voilà.
Oh qu'il est beau et qu'il est si beau, bien dessiné.
Ouais. Donc voilà le Spirou actuel celui de Johan. Mais comment dire comment vous l'avez découvert est-ce que c'est par les journaux et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce personnage ? En tant que lecteur au départ, hein, je parle.
Moi, j'ai découvert Spirou parce que j'ai commencé à lire Franquin tout petit, mais j'ai commencé à lire Gaston Lagaffe, à vrai dire. Et des fois, dans Gaston Lagaffe, ce personnage apparaissait, Spirou. Il avait un rôle tout à fait secondaire, un peu énigmatique. Un type en uniforme qui se promène dans une rédaction comme ça et qui vient de temps en temps assister impuissant aux frasques de Gaston. Je m'aperçois à la fin des albums de Gaston Lagaffe, il y a un récapitulatif de toutes les séries des éditions Dupuis, et il y a une petite icône avec une image. Donc on voyait Docteur Poche, on voyait Natacha, on voyait Bugdani, et on voyait Spirou. Et donc je me dis, ah bah, mais a priori ce personnage-là a des aventures autonomes hors de Gaston Lagaffe. Donc j'ai commencé à découvrir Spirou en allant tout simplement avec mes parents au supermarché le samedi après-midi. Ils nous laissaient au rayon bande dessinée, comme ça ils avaient la paix, ils pouvaient faire leurs courses. Et puis bah, nous, on passait l'après-midi, le temps des courses, à lire les albums. Et j'ai commencé à découvrir Spirou à rebours, c'est-à-dire j'ai commencé à lire les albums de Spirou qui ressemblaient à ceux de Gaston. D'accord. Donc, le dernier en date, c'était, il y avait le marsupilami dedans, c'était Panade à Champignac. Et en plus, il y a encore Gaston dans Spirou, dans cet album-là. L'histoire de Panade à Champignac commence dans les bureaux de la rédaction. Et l'histoire qui suit, Bravo les Brothers, elle est complètement dans la rédaction avec une gag de Gaston. Donc, à rebours, j'ai commencé à lire Spirou en commençant par le 19, le 18, le 17, etc., etc.
Il y aurait une étude sociologique à faire sur les enfants laissés au supermarché devant le rayon BD, parce que je crois qu'effectivement, il y a toute une éducation qui s'est faite là. Je pourrais rajouter Manara et Martin Véron dans les grandes découvertes, parce qu'en général, on était laissés du côté du rayon enfant, mais enfin, il y avait un autre rayon.
Il y avait le rayon adulte pas loin.
Voilà, et ça a été quelques chocs assez frontaux. Mais effectivement, moi, j'ai découvert pas mal de Spirou dans ces conditions. Effectivement, Gaston était pour moi le biais principal. Parce qu'il y avait cette espèce de folie de Franquin. En fait, c'était l'œuvre de Franquin en général. Je crois que j'ai tout découvert en même temps parce que mes parents avaient tous les albums de Gaston, de Spirou, pas tous, mais une bonne partie, et les idées noires de Franquin. Et c'est cet ensemble qui m'a marqué parce que je crois que c'est la première fois que j'ai pris conscience qu'un seul et même auteur pouvait avoir des univers très différents et qui plus est des univers qui paraissaient diamétralement opposés. Un peu comme Denis Bajram, qui est capable de nous faire passer du rire aux larmes en quelques secondes. Parfois involontairement, certes, mais il le fait.
Mais ne nous égarons pas.
Mais ne nous égarons pas, car il est dans la salle. Pour dire qu'en fait, le fait que Franquin soit d'un côté un dépressif qui s'assumait complètement avec les idées noires et qui puisse à la fois avoir une vision très humaniste du monde avec Gaston ou Spirou, moi, me frappait. Et un des tout premiers, si on revient au tout premier souvenir vraiment lié à l'enfance, c'est l'album Le Nid du Marsupilami, qui est resté pour moi un choc et qui est encore important de nos jours parce que j'ai l'impression qu'il contredit tout ce qu'on raconte sur les grandes règles de la dramaturgie. Quand on dit voilà, il faut qu'il y ait un personnage central, un protagoniste, il vit des obstacles, il faut que l'intrigue soit comme ci, comme ça. On prend Le Nid du Marsupilami et les héros ne sont pas dans l'histoire, ils sont passifs, ils sont dans une salle de projection où Sécotine leur parle d'un animal qui n'existe pas. C'est un documentaire animalier et pour moi, c'est un des plus grands chocs de mon enfance et ça reste un des meilleurs albums de Franquin. Donc il était capable, par cette espèce de magie, de poésie, de créer un univers où il n'y avait pas forcément d'obligation d'efficacité narrative, et pourtant c'était efficace. Après, effectivement, il s'avère que Le Marsupilami n'est pas l'album où il y a le plus Spirou et que j'ai découvert les autres après. Dont, par exemple, la Mauvaise Tête, ou Le Gorille à Bonne Mine, ou autant d'albums qui nous ont quand même, je pense, Johan et moi, énormément marqués.
Donc maintenant que vous dessinez Spirou, comment est-ce venu première aventure qui s'appelle Les Géants Pétrifiés, qui est sortie dans une collection de Spirou, qui est un peu à part, qui s'appelle une collection de One Shot, où des auteurs sont chargés de faire une histoire à leur convenance autour de Spirou. Comment ça vous a venu à l'idée de faire ça? Est-ce que c'est les éditions Dupuis qui vous ont contacté? Est-ce que c'est vous qui avez proposé le projet?
Alors c'est une longue histoire assez pénible pour tout le monde. On va la résumer très rapidement. En fait, on m'avait contacté en 2002, avant la reprise de Morvan et Munuera, parce que j'avais commencé à travailler dans le journal de Spirou depuis 1998, que ça se passait bien, et que Tom et Jean-Ry avaient annoncé depuis quelques temps qu'ils allaient arrêter leur reprise. Donc de là, on m'avait demandé de penser à différents dessinateurs qui seraient capables de faire cette reprise. Assez rapidement, Johan s'est imposé dans mon esprit. Simplement, ça n'a pas été aussi évident que ça en interne chez Dupuis, parce que c'était plusieurs éditeurs à la fois, qu'ils n'étaient pas tous d'accord sur qui devait reprendre. Et au final, nous avons fini par jeter l'éponge. Johan et moi, et on a laissé la place à Morvan Munera qui ont fait quelques albums. Mais on avait quand même abordé à l'époque la possibilité que des albums soient faits. En fait, dans cette recherche d'auteurs capables de reprendre Spirou, ce qui était remonté de la plupart des auteurs, c'est que beaucoup étaient prêts à faire un album, mais pas prêts à abandonner tout, toute leur carrière professionnelle pour ne faire qu'une série. Donc à partir de là, ce qu'on avait dit à Dupuis, c'est bah, vous savez, il y a des auteurs qui aimeraient bien faire juste un album de Spirou, un peu sur le modèle américain des one-shot, comme ont pu en faire des Miller à une époque ou des gens comme ça. Et c'est souvent d'ailleurs, si on parle de Batman, c'est souvent comme ça que les meilleurs albums étaient faits, avec des gens qui n'avaient pas d'obligation vis-à-vis de la série, qui s'accaparaient le héros le temps d'un album assez marquant, et on se rend compte que ça donnait des choses très, très justes. Donc de là, comme on avait été un peu évincés gentiment, mais qu'en même temps on avait apporté cette idée des one-shot, assez logiquement, on devenait un peu les premiers sur la liste pour pouvoir faire le tout premier one-shot. À partir de là, donc, on a pu réfléchir à un album en se disant réellement à l'époque que ce serait le seul qu'on ferait et qu'on pourrait se lâcher exactement dans les directions qu'on voulait, y compris graphiquement. Et je passe la parole à ce moment-là à Johan.
Le grand avantage de ce one-shot, c'est qu'il nous a permis, en fait, très vite, de discuter et de tracer un peu les rails de ce qu'allait devenir notre reprise par la suite. Alors évidemment, on ne savait pas qu'on allait reprendre la série Spirou classique, mais on s'est dit, si on fait un album perso, autant faire l'album qu'on aurait aimé lire quand on était gamin, autant faire un album qui annonce la vision qu'on a pour Spirou. Qu'est-ce qu'est Spirou à l'heure actuelle? Un Spirou contemporain, un Spirou de son époque, un Spirou qui a des préoccupations contemporaines. Tout ça, c'est des choses dont on a eu l'occasion, pour le coup, de parler énormément avec Fabien et qui nous ont, par la suite, servi de ligne directrice pour la reprise. Il se trouve que cet album a plutôt bien fonctionné, même s'il a un dessin, un graphisme très différent de la série classique, puisque donc à l'époque, l'éditeur nous avait demandé de créer un Spirou personnel, donc une interprétation quelque part.
Il n'avait pas son costume de groom.
Il n'avait pas son costume de groom, car à l'époque, on s'était dit... Oh, bon sang, un type qui se promène avec un costume de groom dans la rue, ça fait un peu yo-yo, quoi. Ou alors c'est qu'il va à un bal masqué ou un cosplay. Mais ça nous semblait un petit peu déplacé. Et puis, assez vite, quand l'album a rencontré un certain succès, de bonnes critiques, bonnes ventes, en général, les gens l'ont plutôt bien accueilli. On était vraisemblablement plus dans l'esprit de la série Spirou que les auteurs officiels de l'époque, à savoir Jean-David Morvan et José-Louis Munera. Et quand leur contrat n'a pas été reconduit, l'éditeur est revenu vers Fabien en disant « Voilà, on aimerait vous proposer cette fois-ci la série classique. » Fabien dit « D'accord, à condition que ce soit avec Johan. » Je l'avais fait beaucoup boire avant. Et,
tu lui donnais un gros chèque.
Et peut-être. Et pour le coup, le plus gros du travail était déjà mâché suite aux géants pétrifiés sur la manière dont on allait aborder la reprise. Mais l'élément qui a changé, c'est sur le graphisme, le dessin, on s'est dit, bon sang quand même, le costume de Groom, ce serait dommage de l'enlever, c'est un peu comme enlever son costume à Batman, quoi.
En fait, c'est ça, c'est que ça ne devait pas être ça, mais les géants pétrifiés, c'est avéré être un moyen de poser un curseur et ensuite de se demander comment se serait fait vraiment une reprise. Si on avait dû faire la reprise en 2002, on l'aurait fait comme les géants pétrifiés. Mais avec le retour des lecteurs aussi qui nous disaient parfois « Votre album, il est super, mais c'est pas Spirou. » Ça revenait parfois. Donc on se dit « Ok, il y a quand même de la part de ces fameux aficionados, les nostalgiques de ce qu'a été la série, une volonté que ça ressemble d'une certaine manière. » Alors qu'est-ce qu'on appelle ressembler à ? C'est tout un débat. Mais à l'issue de cette réflexion avec Johan, on s'est dit que la ressemblance, elle passerait à la fois par un graphisme sans doute un peu plus proche des origines franquiniennes, même s'il y a aussi un débat là-dessus, parce que je pense que Johan se l'a accaparé, et qui plus est, cette réflexion sur le costume, qui est passée symboliquement par une discussion dont je me rappelle très très bien, devant un poster qu'avait dessiné Johan, où on voyait Spirou dans la jungle, dans un espèce de cadre très Indiana Jones aussi, mais en costume de groom. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment l'image de notre enfance, quand on lisait des Franquins, et qu'on voyait un groom dans la jungle avec en plus le marsupilami. C'est-à-dire que c'est complètement absurde, mais jamais ça ne pose la moindre question à un enfant qui va se dire c'est le héros, il est en costume. Donc à partir de là, on a pris le problème dans l'autre sens en se disant bon, graphiquement c'est trop incroyable, il faut garder ça. Comment on le justifie ? Parce que quand même, un lecteur contemporain va peut-être vouloir ne serait-ce qu'un début de légitimation de ça. Et c'est là qu'on a commencé à inventer un jeu une sorte de jeu avec le lecteur et un jeu un peu post-moderne, un jeu où on sait que c'est le héros d'une rédaction, de la rédaction du magazine Spirou. Et c'est un jeu que Franquin avait déjà commencé à faire quand on voyait un petit lecteur qui, dans la série, un enfant s'adressait à Spirou en disant « J'ai lu tous vos albums ». On était déjà dans du post-modernisme parce que logiquement, un enfant de la BD n'est pas censé lire la BD dans laquelle il est. Enfin, c'est n'importe quoi, mais ça me plaisait assez gamin. Donc ça, on a commencé à l'utiliser dès le premier album de la reprise, Alerte aux Orcons, où on voit Spirou et Fantasio qui reviennent, on peut imaginer qu'ils reviennent du festival d'Angoulême, avec le Spirou géant gonflable, qui d'ailleurs a été ressorti récemment, parce qu'il existe ce Spirou, il a été ressorti récemment au Centre Leclerc pour la dédicace du Spirou Tour, donc un Spirou gigantesque de 10 mètres de haut, complètement ridicule, mais donc assez réjouissant, et il apparaissait dès la couverture du magazine, on voyait la camionnette qui avançait sans doute à 20 à l'heure, sur les routes de petites routes de campagne avec un énorme Spirou géant qui se balance sur le toit et on avait marqué en route vers de molles aventures et ce qui nous avait fait bien rire par rapport au contrepoint du fait que tout le monde nous attendait genre allez essayez de nous prouver quelque chose, donc on a essayé de faire un contre-pied à ça. À partir de là, Spirou est quelqu'un qui travaille à la rédaction du journal qui porte son nom, il en est le porte-étendard et selon les aventures on l'oblige plus ou moins pour des raisons contractuelles ou psychologiques ou que sais-je à reporter son costume de groom comme le symbole du fait que c'est un héros. Et on peut montrer un petit peu les difficultés qu'il a lui-même avec ce costume, dont il a un peu ras le calot, si je peux me permettre cette expression. Parce qu'en fait, lui, il aimerait bien s'habiller normalement. Mais à chaque album, il est obligé de remettre son costume.
Okay. Donc, dans cet album, Les Géants Pétrifiés, alors quelles ont été pour vous les difficultés majeures, quoi ? Pour toi, Johan, par contre, de choisir t'inspirer, d'être dans les traces de Franquin et de tous ces dessinateurs, quelle était ta réflexion pour choisir ton dessin ? Dans Les Géants Pétrifiés, tu as un dessin qui est encore issu de ce que tu as fait avant. Après, plus tard, ça va évoluer vers quelque chose de plus proche des dessins anciens de Spirou. Mais quelles ont été tes difficultés ? Et puis même, toi, tu as des contraintes ou les obligations que tu t'es données ?
La difficulté a été de trouver mon Spirou. Historiquement, dans ma culture, c'était Franquin qui primait. Quand j'étais gamin, je voulais reprendre Spirou, Gaston Lagaffe ou le Marsupilami. J'écrivais des scénarios, je les dessinais à la manière d'eux. Et évidemment, à un moment donné, dans mon parcours, j'ai rencontré des professionnels. Et très tôt, ouf, heureusement, j'avais 12-13 ans, j'ai rencontré Mézières qui m'a dit « Écoute, tu dessines bien, c'est pas mal, mais arrête de copier Franquin, tu vas faire du mauvais baptême et du sous-séron. » Et là, je crois que c'est une réflexion qui m'a bien calmé. Donc, je suis vite retourné à mes carnets pour créer mes propres personnages. Ensuite, j'ai eu un cursus qui m'a de plus en plus éloigné de l'univers franquinien. J'ai fait une école d'art, je faisais de la peinture, de la vidéo, de la photo. J'ai rencontré Éric Aumont, qui sera mon scénariste par la suite sur Toto l'Ornithorynque, La voleuse du père Fauteuil et d'autres séries. Et Éric a été pour moi une sorte de gourou qui m'a ouvert les portes de la bande dessinée, mais autre que franco-belge, notamment de la bande dessinée américaine, de la bande dessinée argentine, de la bande dessinée italienne, etc. etc. J'ai découvert Breccia, Bazooka, Buzzelli, etc. avec ce genre-là. Donc ma culture s'est étoffée et s'est éloignée de l'univers de Franquin. Et puis, bon, un jour, ce garnement de Fabien Vellman m'appelle pour me proposer de travailler sur Spirou. Et là, ça fait un drôle d'effet parce que c'est un peu... Les premiers Spirou que j'ai dessinés, c'était un peu... J'avais l'impression de revenir à mes 13 ans, quoi, et à tous les défauts que j'avais à cette époque-là et le manque de personnalité et tout. Ça m'a fait vraiment bizarre de me remettre à dessiner Spirou à cette époque-là.
Dans cette histoire, on a un peu l'impression que je suis le mec qui rapporte un verre d'alcool à un ancien alcoolique.
C'est ça.
Mais allez, bois. Mais
exactement.
Mais qu'est-ce que tu risques, alors ?
Juste un verre, c'est rien, tu verras.
Et puis voilà, il a rechuté.
J'ai rechuté. Mais... je bois mieux.
Oui, c'est ça, avec plus de discernement.
Peut-être. Donc, en fait, pour moi, toute la difficulté a été de créer mon Spirou et de trouver mon graphisme, ma manière de l'incarner, en fait. Et pour ça, la solution que j'ai trouvée, ça a été, en discutant aussi avec Fabien, de redéfinir quels étaient les caractères des personnages, leur psychologie, leur vie, leur profondeur, tout ce qui n'est pas raconté dans les bandes dessinées. C'est-à-dire, si Spirou il vit dans un appartement et Fantasio dans un autre, comment c'est chez lui ? Qu'est-ce qu'il collectionne ? Qu'est-ce qu'il écoute comme musique ? Qu'est-ce qu'il a accroché à ses murs ? Qu'est-ce qu'il aime dans la vie ? Voilà. Tout a été un petit peu de se dire, qu'est-ce qui fait que Spirou et Fantasio sont différents ? chose qui s'était un peu gommée ces dernières années, c'était un peu devenu des jumeaux. Nous, on a décidé de redonner à Spirou et à Fantasio une véritable différence de personnalité et de caractère. Ils ne vont pas réagir de la même manière vis-à-vis des événements, même si, dans le fond, ils sont d'accord. Mais voilà, ils vont avoir des réactions et des vies très différentes.
Mais ce qui n'est pas hyper simple, en fait, parce qu'autant, quand une reprise est celle d'un personnage qui a été fait uniquement par un auteur, le caractère est en général extrêmement bien défini. On prend l'exemple de Tintin, Haddock, Tournesol, ils ont chacun un caractère très clair. Dans le cas d'une reprise, de plusieurs reprises qui se suivent, c'est beaucoup plus fluctuant. Si on parle, par exemple, de qui est Spirou, ça dépend vachement du Spirou, de quel auteur. Le Spirou de Fournier n'est pas tout à fait celui de Franquin, qui n'est pas tout à fait celui de Robvel, etc. Or, nous, on doit faire une espèce de synthèse de tout ça, et qui plus est, une synthèse subjective, parce qu'il y a des fois où même Johan et moi, on peut ne pas être d'accord complètement sur l'attitude qu'aura le héros vis-à-vis de telle ou telle réaction. Donc, on essaie d'en parler beaucoup, en essayant de ressentir de manière un peu intuitive ce que nous, on en pense. Ça va être vrai aussi, ça, avec de nouveaux personnages qui vont revenir. On y reviendra peut-être par la suite avec un personnage que vous devez chercher quelque part dans cette image et qui peut-être fera bientôt à nouveau une apparition dans la série. Et je reconnais que là-dessus, moi, j'ai un rapport à la série qui est plus émotif qu'exégète. C'est-à-dire que je ne connais pas la série avec la perfection que peut avoir Johan. Quand je ne suis pas sûr de quelque chose, je m'en réfère à lui en disant « À ton avis, est-ce que c'est crédible ? Si ?» Et en général, en fonction de sa réponse, je sais à peu près où m'en tenir. Moi, c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'un truc un peu intuitif, en me disant « Tiens, je verrais bien ça par rapport à des albums que j'ai aimés enfant. » Mais je peux parfois faire des contresens. Je peux parfois me laisser emporter par l'intuition d'une bonne idée, mais une bonne idée n'est pas forcément une bonne idée pour la série. Et là-dessus, pour moi, c'est très important d'avoir un garde-fou. Et quelque part, Johan joue ce rôle-là, en plus d'être un partenaire privilégié de co-scénarisation, parce qu'en fait, on discute beaucoup sur chaque scénario qu'on peut faire. J'arrive avec des idées, on fait une espèce de ping-pong autour de ça, il commence déjà à crobarder un peu des choses. Je me rappelle, par exemple, pour le 52, avec la mutation de ce pauvre Spirou, le fait que je vois Johan en train de commencer à le croquer vraiment comme une espèce de loup-garou avec un calot de groom m'avait fait tellement rire que je m'étais dit bah oui, on va tenter ça. Bon, après il se trouve qu'effectivement les très anciens lecteurs de la série nous ont dit mais non, on fait pas muter Spirou. Donc c'est devenu un t-shirt, on ne fait pas muter Spirou
car c'est mal.
Et de là, on a aussi commencé au fur et à mesure des albums, à nous fixer notre propre bible littéraire et graphique qui n'existe pas. Là encore, ça n'existe pas chez Dupuis, il n'y a pas une bible littéraire et graphique du personnage. On nous dit juste, relisez les albums. Par contre, on a notre ressenti et il y a le retour des lecteurs. Et j'aurais tendance à dire que les différents albums qu'on a faits sont un peu le sismographe de ces réactions qu'on a eues avec les lecteurs. On a commencé de manière assez sage avec le 51 et on a eu plutôt des bonnes réactions de la plupart des lecteurs. Le 52, on s'est lâché un peu plus en se disant « Allez, essayons ça, quelque chose d'un petit peu plus SF, sur la Lune, un peu plus Pulp Fiction, c'est-à-dire on peut s'amuser à faire muter le personnage. » Mais on s'est rendu compte que là, quand même, on franchissait une ligne rouge, si je peux me permettre, qu'il fallait peut-être mieux pas trop dépasser. Et le 53, dans Les Griffes de la Vipère, on est revenu à quelque chose d'un peu plus classique, mais peut-être par contre un peu plus loin de ce que des enfants pourraient aimer spontanément. Donc à chaque fois, on essaie de réajuster tout en s'amusant et sans surtout s'interdire de repartir, refranchir la ligne rouge. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a senti que les gens étaient un petit peu refroidis qu'on va pas s'empêcher de s'amuser avec le personnage, surtout pas.
Pour paraphraser un petit peu Fabien, une des missions qui nous est confiée par l'éditeur, c'est de faire une série tout public, c'est-à-dire qui va intéresser aussi bien les enfants que les adultes. L'éditeur est soucieux à la fois de gagner de nouveaux lecteurs parmi les jeunes et de garder ses lecteurs historiques. C'est quasiment mission impossible. Parce que si on fait un album qui s'adresse aux lecteurs historiques, les enfants ne vont pas comprendre parce qu'ils n'ont pas lu les 50 albums avant et que les clins d'œil, etc., ils vont passer à côté. Si on fait un album qui s'adresse plus aux gamins, les lecteurs historiques vont dire « Oh, mais c'est n'importe quoi !» Comme par exemple cette idée de renvoyer Spirou sur la Lune et de lui faire subir des mutations et des trucs comme ça. Ça, les enfants qu'on a rencontrés ont kiffé ce truc-là. Et ils ont adoré le Spirou qui se transforme en loup-garou, etc. Alors que, effectivement, les plus anciens lecteurs ont été un peu refroidis. Alors, on est un petit peu à peu près résigné à se dire, bon, un coup sur deux, on va peut-être faire un album qui va être plus pour les lecteurs classiques et un autre qui sera plus pour les enfants. Et puis, si on a un coup de bol, on arrivera peut-être un jour à faire un album vraiment grand public qui arrivera à plaire à tout le monde. Ce fut un peu le cas avec Alerte aux Orcons, notre premier album, qui a réussi quand même à capter un spectre large dans nos lecteurs.
Et je ne désespère pas que le 54, qui est déjà écrit et sur lequel Yohan est en train d'avancer, soit un petit peu ça, dans le sens où le 54 est un peu un mélange entre du Indiana Jones et les Rois du Désert, si vous avez vu ce film avec George Clooney, à savoir que c'est une espèce de quête archéologique sur fond de pays en guerre, comme ça pourrait être le cas en Libye, en Syrie ou en Irak. Donc il y a à la fois un degré de lecture qui sera plus pour des adultes capables sans doute de comprendre l'arrière-plan politique, et puis une quête archéologique de base, enfin, mais donc j'espère quand même intéressante, avec un labyrinthe secret, avec des trésors à découvrir, des pièges, etc. On est vraiment dans du Indiana Jones. Donc avec un peu de chance, peut-être que le 54, l'album de la maturité, sera un peu une manière de réunir ces deux publics. Maintenant, on sait quand même que si on cherche trop à plaire à tout le monde, on risque de plaire à personne. Donc il faut, quoi qu'il en soit, qu'on s'amuse. Moi, ça reste vraiment le maître étalon de ça. C'est que quand on commence à réfléchir à un nouvel album, il faut qu'on se marre avec Johan. Et après, on essaie de tenir compte de ce que les gens nous ont dit, des différentes réactions des lecteurs. Et puis, on intègre aussi les nouveautés éditoriales pour en revenir à ce fameux personnage qui risque de revenir dans la série.
Donc, on voyait dans l'image d'avant là, un ensemble de personnages qui apparaissent dans Spirou et on s'aperçoit qu'il y en a énormément. Alors toi, Johan, comment tu as pu te les approprier ? Bon, personnages comme Zorglub, bon, c'est quand même le personnage idéal au niveau scénario pour faire de l'ASF. Il y a des personnages, bon, il y a des personnages animaliers. Il y a Aspip, le petit écureuil, qui, à mon avis, est un personnage important et qui n'a pas dû être simple. Et puis, il y a un petit truc jaune avec des points noirs là, qui se balade, là, qui s'appelle le marsupilami, qui avait disparu de Spirou pour des raisons purement de droit et économique. Bon, c'était ça. Mais bon, tout le monde espère que vous allez nous le faire revenir. Et je pense que c'est un projet quand même qui va se mettre, pas dans le 54, non, peut-être celui d'après.
Dans l'album d'après, parce qu'en fait, au moment où on commençait à travailler sur l'album 54, à le réaliser, le scénario était écrit, on a appris que le groupe auquel appartient les éditions Dupuis a racheté l'éditeur qui a les droits du Marsupilami, à savoir Marsu Productions, qui était un éditeur donc concurrent avant de Dupuis. Et c'était la raison pour laquelle le Marsupilami, depuis plus de 40 ans, n'était plus dans la série Spirou et Fantasio. Alors, ça va nous faire plaisir à nous, qui sommes auteurs de Spirou et qui n'avions jamais rêvé de pouvoir un jour envisager le retour du Marsupilami. Ça va faire plaisir aux lecteurs historiques de la série Spirou et Fantasio qui ont lu les 50 épisodes et qui sont fans de Spirou et de Franquin et qui vont voir un rêve de plus de 40 ans se réaliser, le retour du Marsupilami. Mais il faut qu'on soit conscient aussi de quelque chose, c'est que les enfants, notre jeune lectorat, pour la plupart, ne sait pas que le Marsupilami est né dans Spirou, et pour lui, que ce personnage de dessin animé qui est sur quelle chaîne câblée, ouais, tout d'un coup se retrouve dans la bande dessinée de Spirou et Fantasio, ça ne va pas du tout leur parler.
Comme si on mettait Hulk dans la série. D'ailleurs, Hulk qui vient d'une création de Franca.
Spirou et
Non, là, je dis que des conneries. Mais non, mais c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire qu'effectivement, un gamin va se dire, tiens, il mélange les deux personnages. Bon, pourquoi pas, mais il n'aura pas forcément ce recul-là. Ça, je pense que ça va être pour nous, le 55, un nouveau défi à peu près aussi flippant que de reprendre la série. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va être attendu à nouveau. On l'était déjà avant, mais là, on va l'être encore un peu plus par des gens, entre autres, qui ne connaissent pas la série Spirou ou qui ne la lisaient plus. Donc, en fait, mais c'est aussi avec ça qu'on fonctionne. Hein. C'est au coup de coup d'adrénaline que ce genre de défi peut provoquer. Ça veut dire qu'effectivement, ça posait une question déjà immédiate. C'est est-ce qu'on joue sur le fait que le personnage du Marsupilami a disparu de la série ? Et assez rapidement, Johan m'a dit, on ne peut pas faire abstraction de ça. Les lecteurs, ils ne peuvent pas revenir genre « Ah oui, au fait, il était là, puis il a fait des courses de 40 ans. Ça y est, j'ai enfin trouvé le lait de coco. » Non, ce n'est pas possible. Ou bah. Donc, en fait, il faut expliquer pourquoi il a disparu, alors même qu'on sait très bien que c'est pour des raisons de droit. Donc, on ne va pas commencer à dire « Après de multiples aventures chez Marsu Productions. »
Et après des batailles d'avocats.
Et des batailles d'avocats. On a déjà eu un peu ce côté dans Les Griffes de la Vipère, où justement, on joue sur ce deuxième regard où on voit un milliardaire qui rachète Spirou.
La marque Spirou, quoi.
Voilà, la marque et le personnage et ses ustensiles, à savoir Spip, entre autres. Donc déjà, il y a ce côté sixième degré, on ne peut pas le faire à chaque fois. Donc là, il faudrait qu'on ait autre chose. On a déjà commencé à réfléchir à des pistes qui nous semblent intéressantes. Mais c'est vrai que le 55 sera un moment un peu important. Soit dit en passant, dans la corbeille de la mariée de ce rachat, il y avait aussi Gaston.
Ah ouais.
Dans les deux cas, on n'est pas censé utiliser tout le temps ces personnages. Mais par contre, de pouvoir faire un clin d'œil à Gaston ou d'utiliser de temps à autre le marsupilami, on ne va pas s'en priver. Là encore, parce qu'effectivement, les épisodes qui, moi, m'ont marqué quand j'étais enfant étaient quelque part entre Gaston, la rédaction, et la foire aux gangsters, où on voit Gaston traîner ses guêtres derrière une aventure de Spirou. Donc, dès le 54, qui était pourtant déjà écrit, je reconnais m'être fait un petit plaisir en changeant un passage, un flashback de Fantasio, pour permettre une petite apparition donc, en guest de Gaston. Mais c'est vraiment du clin d'œil, histoire simplement de rappeler au lecteur petit à petit que oui, il y a un lien entre tout ça, et qui plus est un lien qui pour moi est vraiment affectif, parce qu'à certains égards, quand j'ai lu des bandes dessinées enfant, quelque part mon premier rêve professionnel, il y en a, c'est de dire je vais être astronaute, moi c'était je veux travailler chez Gaston. Et quelque part, c'est ce qui se passe. Donc, je savais bien que ce n'était pas vraiment la rédaction, mais je me disais quand même, ça a l'air cool ce que dit Franquin. Là, j'aimerais bien en faire partie.
Pourquoi tu voulais manger de la morue aux fraises ?
J'avais un certain nombre d'envies explosives aussi, parce que lui, c'était le type qui glande rien au bureau et fait exploser son travail. Donc, ça me plaisait assez quand même. Donc, voilà, si on peut un petit peu faire référence à ça et remettre cette inventivité-là aussi dans la série Spirou, ça serait génial.
Donc, maintenant, une autre question à propos de Spirou, là, toi, Johan, bon, tu vas le marsupilami, bon, j'imagine que tu es déjà entraîné, mais alors, je pense que là, peut-être,
je m'entraîne depuis l'âge de 12 ans à dessiner le marsupilami.
Donc, tu vas avoir un plaisir. Je pense que tu vas vraiment prendre du plaisir à faire ça, non ?
Ah, bah oui, carrément, ouais. Je suis impatient, t'imagines pas.
Moi, par contre, ça me fait assez peur, c'est la place que va prendre le personnage, parce que on parle de Spirou et Fantasio, c'est déjà souvent, ils sont toujours en duo, ou quasiment. Dans les griffes de la vipère, on a essayé de les séparer un peu pour justement s'attarder sur Spirou un peu plus. Mais il y a Spirou, il y a Fantasio, il y a Spip, qui est quand même assez présent, qui fait des blagues, des choses comme ça. Il y a souvent des personnages secondaires. Alors on en voit beaucoup qui apparaissent. Il y a Champignac, il y a le maire de Champignac, il y a Dupilon, on peut en citer plein. Et là, on va avoir en plus le marsupilami et une queue de 8 mètres, ce qui en fait a l'air d'être une anecdote, mais ça prend énormément de place graphiquement, de placer ça dans des cases. Donc, je vais essayer d'en tenir compte pour pas surcharger.
Je pense qu'un petit accident de tondeuse à gazon dès les premières pages.
Voilà, et hop, ça c'est fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si je propose à Johan un scénario où dans chaque page il y a 12 cases de scénarios bien tassés et plein de dialogues, il risque de m'en vouloir si en plus il y a 5 personnages par case parce qu'il y a Spirou, Fantasio, Spip, le Champignac et le Marsupilami. Donc, oui, il y a une difficulté là-dessus. Par contre,
faisons confiance à notre génie.
C'est un peu ce qu'on s'est
dit. J'ai envie de dire.
Et c'est ce qu'on a dit aux gens de chez Dupuis qui, bizarrement, ne nous appellent plus au téléphone depuis.
Moi, je me dis, que ferait Denis Bajram dans ce cas-là ?
On est d'accord. C'est
je trouve tout de suite la solution.
C'est un peu notre maître étalon.
Donc, aussi, dans les ressorts du scénario, justement, tu posais cette question, tu as commencé à expliquer. Quels sont les personnages en fonction du type de scénario que tu vas faire, science-fiction, aventure, archéologie ? Quels sont les personnages secondaires que vous allez utiliser ? Comment vous les choisissez ? Et en fonction de quels critères ? Par exemple, des personnages comme Champignac ou le maire de Champignac ou des personnages comme ça qui apparaissent pas forcément dans tous les albums.
Ouais.
Comment sont-ils choisis en fonction des ressorts scénaristiques ?
Bah, c'est justement en fonction des ressorts scénaristiques. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas dès le début. Si, à une exception près, c'est Zorglub. On avait très envie de assez rapidement remettre Zorglub en avant, d'autant qu'on avait l'impression que ce pauvre Zorglub, on avait pris plein la tête dans les derniers épisodes où il apparaissait. On voulait lui redonner un peu une stature de vrai méchant mégalomane, en tout cas d'antagoniste, que ce n'est pas vraiment un méchant, mais d'antagoniste. Donc c'est vrai que Zorglub s'est un peu imposé au début, et de là, on a eu envie de faire des épisodes un peu de science-fiction. Maintenant, on va dire que dans l'absolu, on part plutôt d'une idée de narration, et que de là, on se dit, est-ce que tel ou tel personnage aurait sa place là-dedans ? Par exemple, Sécotine, on avait assez envie de la faire apparaître plus tôt. C'est un personnage qui est important dans la série, des lecteurs nous l'avaient demandé. Mais on trouvait que ce n'était pas le moment de le faire. À partir du 53, ça nous est apparu évident. On parlait du monde du journalisme, on parlait de rachat, de groupes qui rachètent un journal, etc. On s'est dit, Sécotine est journaliste avant tout. Donc là, c'est assez logique qu'elle revienne. Donc on part maintenant plutôt de l'idée qu'on a envie de développer, d'album en album, et on réfléchit ensuite en termes de personnages secondaires, quitte à des fois les abandonner en cours de réflexion en disant... C'est pas mal, mais si on l'utilise juste le temps d'une courte apparition, genre en guest, et que c'est pas juste un clin d'œil, c'est peut-être pas la peine de le faire. Donc il y a des fois où j'avais commencé à développer des choses, où j'imaginais tel ou tel personnage avoir plus d'importance, ou en tout cas apparaître de temps en temps, et que j'ai abandonné en cours de route en me disant « recentrons-nous, là encore, sur quelques personnages ». Alors dans le cas du 54, on s'est permis, même si c'est de manière assez légère, d'utiliser par exemple Vito Ladévenne, qui est un des personnages de Tom et Jean-Ry. Personnage qu'on a commencé à annoncer à la fin du 53, parce qu'en plus du costume de Groom, dans la reprise qu'on fait avec Johan, il y a une autre petite spécificité, c'est qu'à la fin de chaque album, on annonce l'album suivant. On peut les lire indépendamment les uns des autres, mais on trouvait ça intéressant quand même de rappeler que c'est un feuilleton et que qu'un enfant ou un lecteur qui lit la série puisse se dire « Ah tiens, à la fin, ça parle d'une autre aventure, je me demande ce que ça peut être, etc. » À la fin du 53, on laisse entendre que Sécotine a demandé à un moment donné son aide à Vito Ladévenne et qu'il va bien entendu lui faire payer assez cher. Voilà à peu près comment moi j'envisage les personnages. Après, je ne sais pas si c'est la même chose pour mon compère.
Bah, bien sûr, le truc qui est formidable avec la série Spirou, c'est un peu c'est un coffre à jouer, quoi. On est un peu des gamins dans un magasin de jouets et on nous dit bah, allez-y, amusez-vous, utilisez tout ce que vous voulez. Vous pouvez en créer et vous pouvez utiliser des jouets qui sont là et qui vous ont toujours fait rêver. J'ai toujours voulu avoir des Transformers quand j'étais gamin. Et puis bah, ah, bah, là, j'ai toute la collection, quoi. Donc avec Spirou, c'est ça. Et évidemment, ce serait dommage de se priver du plaisir d'utiliser certains personnages, mais une fois de plus, je paraphrase Fabien, il faut que ça ait une utilité dans le scénario et on le fait pas juste en disant ah, alors on va utiliser celui-là parce qu'il est trop cool, quoi.
Non. Et il faut aussi qu'on ait de la place pour en créer. Et dans ce sens-là, par exemple, un personnage comme Poppy Bronco, qui pour moi est un des meilleurs méchants que nous ayons créé avec Johan, qui a vécu des aventures hallucinantes un peu partout dans le monde, et en fait, c'est un personnage qui n'existait pas avant la série. Mais dans le tome 52, on se permet à chaque fois qu'il dit une phrase, une espèce de citation souvent assez virile, on met un astérisque qui dit en dessous « Allez lire ses aventures ». Et on a inventé avec Johan un certain nombre de titres parfaitement idiots qui nous faisaient rire à chaque fois en disant bah, « J'aimerais bien savoir ce que Poppy Bronco a pu faire dans tel ou tel type d'aventure ». Et bien entendu, on s'est permis, alors qu'il est plus ou moins mort à la fin du 52, de le faire revenir en majesté dans le 54, parce que ça fait partie aussi des codes de narration idiots de ce genre de BD. C'est qu'un héros qui, un méchant qui meurt ne meurt jamais très longtemps parce qu'on peut le ressortir du coffre à jouets. C'est exactement ce que dit Johan.
Il renaît toujours de ses cendres, finalement, le méchant qui est tué. Ouais, ça revient toujours.
Oui, puis c'est un ressort comique en plus. Oui. Il va revenir avec dans d'autres dispositions d'esprit, avec d'autres attitudes. Enfin, voilà. Et puis il va mourir d'une manière complètement différente encore. Et puis. C'est un peu comme, je sais pas, comme Kenny dans South Park, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est en plus viril. C'est un mélange entre Chuck Norris et Kenny.
Alors, parce que tu parles du coffre à jouets, Johan. Alors, dans Spirou, quel est ton jouet pour lequel tu as, je sais pas, comme une tendresse particulière, ou un personnage qui sur lequel tu aurais vraiment tes préférés, quoi.
Mais je les aime tous, quoi. C'est ça qui est terrible. J'ai un petit truc quand même pour Zorglub. J'adore Zorglub, peut-être parce que je m'en sens très proche. C'est peut-être mon côté dictateur refoulé et gaffeur assumé. Donc, j'en sais rien.
On voit à l'écran Zorglub actuellement.
Voilà. Ouais. Je rêve d'être aussi classe que lui.
Est-ce que tu pourrais nous faire un jour un Zorglub avec un perfecto?
Mais bien entendu, mais
ça sera plus proche de toi.
Ça sera plus proche de moi. D'ailleurs, c'est une sorte de perfecto un peu plus long, hein, qu'il possède. Hein, Zorglub, donc bien sûr. Champignac, j'adore Champignac parce que j'adore le dessiner. C'est un personnage que je dessine. Je pense à Jean Rochefort et j'entends sa voix quand il parle. Pour moi, c'est la voix de Jean Rochefort, Champignac, quand il parle. Et le marsupilami, ça, je vais le découvrir. Pour le moment, je le dessine pas trop parce que je veux garder tout le plaisir de le faire quand je serai sur l'album.
Tu devras le faire 5 milliers de fois.
Ouais, c'est ça.
Donc effectivement, t'épuises pas trop vite.
C'est ça, surtout la queue. Et puis voilà, c'est vrai que ces personnages secondaires ont plus de contraste que Spirou lui-même. J'adore dessiner Spirou, il n'y a pas de souci. Mais ceux-ci ont un petit truc en plus. Ils sont moins parfaits, évidemment. C'est pour ça aussi que moi je les aime bien.
Bah, c'est vrai que j'aime beaucoup Zorglub parce que j'ai été marqué à vie par la toute première apparition de Zorglub dans la série où quand même il fait une apparition fantastique en haut de sa Zorglub mobile et genre « Oui, c'est moi !» et il oublie qu'il n'y a juste pas d'échelle pour descendre et il tombe de 5 mètres sur le sol comme une vieille merde. Et cette apparition-là, pour moi, elle est tellement géniale dans le comic de slapstick en fait, qui était capable de faire Franquin. C'est-à-dire qu'il a, cette chute de Zorglub, elle me fait encore rire en fait. Tellement elle est bien, après il se redresse et à nouveau il fait genre non, 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 il met un arrivé, c'est bon. Et ça, c'est tellement humain. Et en fait, voilà, c'est un peu le docteur No de James Bond qui serait gaffeur, quoi. Donc du slapstick dans du James Bond, ça, c'est tout le génie de Franquin et dans le cas présent un peu de Greg, bien sûr, qui a aidé à créer le personnage. Après, il y a des petits personnages pas forcément très développés. Enfin, si, il y en a qui l'ont été beaucoup, mais qu'on n'a pas encore utilisé. Je pense à Zantafio, que je continue à avoir envie d'utiliser, mais je sais pas comment. Mais j'aime bien ce personnage-là, parce que lui, il est vraiment méchant, donc ouais. C'est intéressant. Et j'aime bien aussi un personnage secondaire qui est Murena, qui avait été... Voilà. Mais John Elena, pardon, je l'appelle Murena, mais preuve que voilà, preuve qu'heureusement que Johan est là pour rattraper mes bourdes au dernier moment. Car dans cet excellent album de Spirou qui s'appelle Universal War. je me trompe encore. Mais
j'en perds mon.
Voilà, donc c'est Elena qui en réalité donc était la Murène. C'est un personnage qui a été un peu ambigu, qui a été utilisé par Franquin, puis réutilisé par Tom et Jean-Ry. Ça me plairait bien. En tout cas, j'ai vraiment en tête son look et ce qu'il a été. Et le côté un peu dangereux, un peu ancien méchant qui devient un peu gentil. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire. En fait, il y en a toute une panoplie. Mais là encore, j'aimerais bien aussi qu'on en crée quelques-uns qui puissent durer.
Voilà, je voulais vous demander si vous avez vraiment des envies de créer un personnage assez spécifique.
Bah, déjà, je crois qu'après Poppy Bronco, on va avoir du mal à atteindre le même niveau. Il y a un personnage qu'on a créé, qu'on aime bien, qu'on va peut-être faire apparaître aussi, c'est Martin, le petit archéologue très sérieux et qui explique à tout le monde que l'archéologie, c'est vraiment un truc très très sérieux. C'est beaucoup de travail en bibliothèque, à lire des livres ou à faire des recherches sur son ordinateur, et qu'on ne va jamais
sur
dans
le
des
terrain.
Pays exotiques, sur le terrain et tout, que c'est vraiment...
On sent qu'il est dépressif au dernier degré à compter des tessons de...
Mais qui rêve de découvrir la civilisation de Mu et l'Atlantide, quoi.
Ça, en fait, on sent que c'est un rôliste qui a dû jouer à l'Appel de Cthulhu assez régulièrement et qui fait de l'archéologie pour ça, mais qui est constamment déçu de trouver qu'un demi métacarpe de dinosaure une fois tous les 10 ans. C'est que grâce à Spirou, il est en général propulsé dans l'aventure à puissance 10. Il essaie d'en faire partie dans le 54, mais ça va être un peu compliqué pour lui. Donc on s'amuse à remettre un peu ses personnages en avant. Mais une fois de plus, c'est compliqué de trop en mettre en avant parce qu'on sait que les aficionados veulent retrouver déjà d'anciens personnages. Donc on essaie de ménager la chèvre et le chou.
J'aurais une question pour toi, Johan, purement technique. Toi, fait de dessiner Spirou par rapport à ce que tu faisais avant, est-ce que tu as dû prendre des évolutions techniques, toi, ou rechercher des choses que tu... Est-ce que ça t'a forcé à explorer des domaines que tu connaissais pas trop ?
Ça m'a forcé à être moins brouillon, à être plus exigeant, à être moins feignant. Parce que Spirou, quand même, il y a du niveau. Même si je suis pas encore arrivé à la perfection que pouvait développer un Franquin ou un Tom et Jean-Ry. Mais voilà, moi je suis issu d'un aspect plutôt pictural. Mon truc, c'est plutôt la peinture. Toto l'Ornithorynque, c'est une bande dessinée pour enfants qui était faite à l'acrylique, à la peinture. C'était vraiment plus proche de l'illustration, donc quelque chose de plus intuitif, plus lâché. Après, par la suite, quand j'ai fait des séries avec Eric Aumont ou avec Svare Trondheim, j'étais plus classé dans ce qu'on appelle la nouvelle BD, avec ce que ça englobait graphiquement comme connotation, à savoir des auteurs qui dessinent un peu de la main gauche et sans faire trop de crayonner, quoi. Et du coup, me retrouver
sur ta définition de la nouvelle bande dessinée. Ces gens qui dessinent de la main gauche sans préparation. Bah alors, je suis un nouvel auteur.
C'est ça, exactement. Mais beaucoup, il y a beaucoup de gens finalement. Mais finalement, je comprends toujours pas ce malentendu qui fait qu'un jour on a cru que j'étais capable de dessiner Spirou et que moi-même j'y ai cru, peut-être. Et pour le coup, je suis contraint à soigner mon trait, à fouiller plus mes crayonnés, tracer mes perspectives, me documenter sur les bagnoles, l'architecture, les décors, les machins. Et puis à tirer la langue en traçant mon truc au pinceau numéro 2 de chez Winsor & Newton. Voilà, c'est un apprentissage classique, beaucoup plus que ce à quoi j'avais été habitué précédemment.
Soit en passant, on peut en profiter pour citer aussi deux autres partenaires de notre équipe, puisqu'on parlait des designs, oui, entre autres, mais il y a Fred Blanchard, qui d'ailleurs est nantais, qui nous aide.
Sur les décors.
Voilà, qui invente des décors, des designs, qui parfois nous les soumet en amont, donc il peut y avoir aussi un impact sur le scénario. Et Hubert, qui s'occupe des couleurs. Donc ça fait vraiment tout un petit package, comme ça, une sorte de dream team.
Un travail d'équipe. Non, c'est vrai que les couleurs de Hubert, c'est quand même très important, je crois. Que c'est quelque chose d'assez.
Hubert, qui est aussi même scénariste, au demeurant, de bande dessinée.
Qui fait des scénarios, ouais. Mais c'est vrai que le travail sur les couleurs était quelque chose d'assez fondamental sur Spirou, quoi.
Oui. Là, d'ailleurs, là, on a une page qui est colorisée par Hubert, alors que la précédente, c'était par moi. On voit la différence. On s'aperçoit qu'il y en a un qui est daltonien et pas l'autre. oui, Hubert a un travail parfois contesté sur les couleurs. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité tout le temps autour de nous, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. C'est que c'est en plus d'être un coloriste, c'est d'abord un auteur, c'est d'abord un artiste, c'est quelqu'un Déjà, on était à l'école des Beaux-Arts ensemble et c'était je me souviens de son travail quand il était là-bas. C'était un véritable artiste qui avait des points de vue importants, graphiques, picturaux. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à lui, parce que c'est pas juste un colorieur. C'est pas quelqu'un à qui on dit le ciel est bleu, l'herbe est verte. Il va apporter une autre dimension aux couleurs, en amenant de l'émotion, en amenant quelque chose d'un peu subliminal, quoi. Et ça, c'est ce que j'apprécie chez lui.
Et ça fait partie des curseurs qu'on doit placer. C'est-à-dire qu'on savait qu'Hubert ne ferait pas des couleurs strictement comme l'étaient les couleurs de l'âge d'or de Franquin, ce qui parfois a été attendu par des lecteurs. Et c'est là qu'on en revient à des problématiques de reprise. Alors, j'en profite quand même aussi pour citer au passage d'autres exemples de reprise, puisque des gens sont concernés dans cette salle. Je pense à Valérie Mangin qui s'occupe de Alix Sénateur, qui par exemple est une autre optique complètement et hyper intéressante de ce que peut être une reprise. Où là justement, on essaie, à la fois il y a un rapport avec ce qui existait avant, et à la fois on ne peut pas dire qu'ils ont genre respecté les codes couleurs d'Alix. Dieu soit loué dans le cas présent. Et donc je trouve ça vachement intéressant de se dire qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas d'une reprise, vers quelle direction on peut se permettre d'aller. Et si on doit citer au passage justement, je trouve, une réussite dans ce cadre-là, Alix Sénateur en est une.
Voilà. Mais c'est la problématique de Spirou, elle est là aussi, c'est que c'est un personnage qui a 75 ans, qui a toujours été contemporain de ses lecteurs, et nous, on nous l'a confié en disant continuez à le faire vivre, et le continuer à faire vivre Spirou, c'est aussi le faire évoluer graphiquement, dans son aspect, dans ce que véhicule le dessin, le graphisme, les couleurs.
Oui, et puis d'être un personnage qui plaît à un public contemporain et jeune, surtout, parce que c'est d'abord quelque chose pour à partir de 7-8 ans. D'abord
C'est censé. Voilà.
Après, on peut aller beaucoup plus loin. Bah, une toute dernière question, puisque Spirou est très très vivant, il va y avoir un nouvel album. On peut en avoir le titre ?
Alors, le titre, non, c'est trop tôt.
Le titre, souvent, on le trouve à la fin.
Il y a des fois où il arrive très vite. Dans Les Griffes de la Vipère, est venu tout de suite parce que pour moi, il s'est imposé.
Il est même arrivé avant, peut-être.
Voilà,
même le...
Je me suis dit, c'est mon titre pour toujours.
L'histoire a été écrite en fonction du titre, en fait.
Voilà, même si j'ai quand même eu droit à des réactions de gens qui disent, mais c'est impossible, monsieur. Donc il a fallu que j'explique.
Donc, si on veut connaître le titre, il faut s'adresser à la NASA, à l'Agence américaine d'espionnage.
Bah oui, ils doivent le savoir. De toute façon, ils le sauront même avant nous. mais non, là, on a un ou deux titres de travail. Je peux juste dire que donc ce sera dans un contexte de pays en guerre, une quête archéologique initiée par Vito Ladévenne qui oblige nos deux héros à y aller. Ce qui moi m'intéressait là-dedans, c'était le fait que le seul moyen qu'ils ont d'entrer dans ce pays en guerre, où il n'y a aucune autorisation d'entrée, c'est pour Spirou d'être en fait là comme soutien du moral des troupes franco-belges. Et donc il arrive en costume de groom justement exprès pour ça, et tous les militaires sont super contents de le voir, alors que lui il est plutôt anti-militariste, donc il est mal à l'aise. Et bien entendu, sa valise explose au bout de, je pense, 5 cases à peine, donc il se retrouve en costume de groom dans Sniper Alley, sur fond vert de gazon, avec tous les snipers de la ville en train de faire... Oh, un groom sur un fond vert. Et cette scène nous a fait mourir de rire. Donc voilà, pour dire à peu près l'état d'esprit qu'il va y avoir dans cet album. Honnêtement, un de nos meilleurs.
Je crois.
Bon, on va attendre qu'il soit...
Il n'est pas encore fait, mais c'est quand même un de nos meilleurs.
Quand il sera dessiné, un jour...
Alors là, quand il sera en plus dessiné...
Bon, on verra ça en 2014.
2014, juin ou septembre. Juin, si j'arrive à rattraper l'énorme retard que j'ai sur cet album. Ou septembre, si je ne peux pas faire mieux.
Bon, merci messieurs. J'espère qu'on...
Merci Georges.
J'espère qu'on vous a Spirou après... éclairé sur Spirou, qui est bien vivant.
Mais tout à fait.
Voilà. Spirou a presque l'âge de la librairie Aladdin. Hein,
presque, ouais.
La librairie Aladdin, rue Mercœur, spécialiste bande dessinée.
Il fait à 35 ans.
Il faut le faire avec la voix des bandes annonces de cinéma. Bon, librairie Aladdin, un endroit chaleureux où vous mangerez une pizza après cette séance de
accueilli
cinéma.
Accueilli par une équipe sympathique.
Ouais, voilà. Et des diapos.
Et compétentes.
Pense à ça pour la prochaine pub.
D'accord, on va y penser. On va mettre ça dans les cinémas. Bon, merci à tous les deux.
Merci à toi.
Merci à vous.
S'il y avait une question dans la salle.
Oui, pardon.
De Monsieur Bajram, non ?
Non.
Non.
Non. Bon.
D'une autre star ?
Stars de la bande dessinée, oui, parce que j'en vois plusieurs.
Est-ce que nous avons oublié de citer des stars ? Sans doute un peu, mais ça va venir après. Bon, allez, bon appétit à tous et toutes.
Merci, on va y aller. Merci beaucoup.